On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. On est au marché du Gigant, c'est samedi matin, et on est avec Amandine, qui a une pépinière que je qualifierais de gourmande.
C'est son nom, ouais, c'est pépinière gourmande. Donc c'est beaucoup de choses qui sont comestibles, beaucoup de plantes comestibles, que ce soit des arbres à fruits ou des vivaces un peu insolites et avec des arômes sympas.
Et alors Amandine, tu veux nous parler d'une recette aujourd'hui qui tient un peu à cœur. De quoi est-ce que tu veux nous parler ?
Alors moi je fais des choses très très simples et très basiques, et comme je suis passionnée des herbes, ben, je fais beaucoup de choses avec des herbes. Et ben, là aujourd'hui c'est le poisson en papillote. Poisson papillote qui est très facile à faire, mais moi j'y mets toutes mes herbes en fait que je peux trouver, et surtout une que j'adore le goût, c'est la monarde. Alors la monarde, c'est une petite plante vivace en fait, qui a une odeur assez incroyable, qui rappelle un peu le thym, mais un thym particulier. Alors d'ailleurs, je vais te faire sentir parce que j'en ai ramené une.
Alors je prends un petit peu de la feuille. Ah oui, c'est vrai que je ne sais pas comment qualifier, c'est un peu citronné, il y a un côté un peu...
Moi, ça me fait penser au thym, mais effectivement avec du fruit, un peu de fruit et floral aussi en même temps. Donc j'adore cette herbe.
C'est hyper parfumé, hein, ça sent... Là, j'ai pris juste une mini-feuille dans la main, j'ai à peine écrasé, ça sent super fort, c'est vachement agréable.
Presque l'origan aussi, on pense un peu à l'origan, on pense un peu au thym en fait. Il y a un mélange comme ça, c'est vraiment particulier la monarde pour ça. Et en même temps, ça nous rappelle les aromatiques sauvages. Et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, bah, dans le poisson en papillote, c'est parfait parce qu'elle ne prend pas trop de place non plus. Et là, on peut la mettre. Et puis, cette plante-là, les fleurs sont comestibles aussi. Donc, on peut l'utiliser toute l'année, sauf quand il gèle, bah, elle disparaît. Sa partie aérienne disparaît, sa souche reste vivace. Mais par contre, après, dès le printemps, elle fait des énormes fleurs qui sont des œuvres d'art et qui sont aussi bonnes que belles à manger, qu'on peut mettre aussi en salade. Mais du coup, on peut faire une pierre deux coups, faire une belle salade avec les fleurs et puis faire un poisson en papillote avec ses feuilles. Et donc ça, c'est génial. Et la fleur, elle est plus fruitée encore, plus fine au niveau du goût. C'est vraiment une plante sympa.
Alors du coup, pour qu'on reproduise ça chez nous, tu nous dis, écris un petit peu la recette, le poisson papillote. Ouais. Tu nous dis que c'est une recette simple, donc vas-y, c'est quoi les étapes?
Alors bon, ben moi après j'évite d'utiliser du papier aluminium, donc j'utilise un petit plat à four. Je mets mon poisson dedans. Moi j'utilise beaucoup de truites parce que j'ai mon ami à Salagosse qui fait de la truite. Et après je rajoute très peu de choses. Je mets du gros sel, un peu de filet d'huile d'olive, enfin un petit filet d'huile d'olive, et ou bien que de la monarde si j'ai pas envie que ça soit trop vaste en goût, ou bien je peux rajouter avec de la coriandre, avec du persil, de la ciboulette, des petites échalotes coupées. Et puis c'est tout simple. Après je referme bien comme il faut. J'ai un petit plat four en fait où je peux mettre un petit chapeau dessus. Et du coup je mets ça dans le four. Alors du coup c'est pas tout à fait la papillote, mais j'évite d'utiliser de l'aluminium. J'aime ça de moins en moins quoi. Donc voilà, et là c'est magnifique.
Donc un plat fermé ou à défaut de l'aluminium, on va dire.
Voilà,
mais voilà, et du coup, au four, combien de temps à peu près au four?
Alors, c'est pas très long. Moi, je le mets à 200, assez fort, ouais. Je le mets à 200 et ça va peut-être une demi-heure, pas plus. Après, je regarde, c'est ça en fait. Dès que je sens l'odeur qui monte, en fait, je regarde. Alors, en principe, c'est prêt, mais je le mets pas très longtemps parce que j'aime bien quand le poisson, il est pas trop cuit.
un petit peu sur la pépinière gourmande, sur ton parcours. Donc du coup, décris-nous déjà un petit peu ce que tu plantes dans cette pépinière pour qu'elle soit gourmande, justement.
Alors, tout ce que j'aime, déjà. En fait, comme moi, je suis pas une grande cuisinière, mais par contre, j'adore manger. Et du coup, il faut que ce soit des choses, déjà au niveau des herbes que j'aime, ça c'est sûr. Et puis au niveau des fruits, parce que je suis passionnée des fruits. Là-bas, je suis passionnée du végétal en lui-même. Et puis après, quand j'ai rencontré donc c'était le végétal sauvage que j'adorais, et puis tout ce qui était les fruits sauvages, j'en suis fan. J'adore la cornouille, même s'il y en a quand même pas trop, mais j'adore la mélange, j'adore le cormier, enfin la corme, et la nèfle aussi. Et en fait, après, j'ai découvert des variétés, des cultivars un peu plus poussés au niveau du goût, et puis avec des choses incroyables au niveau des saveurs. Et là, ça m'a ouvert les portes, et à force d'en faire, et ben finalement j'en avais tellement, et puis j'avais une belle collection. Du coup, j'ai essayé de devenir pépiniériste. Et à côté de ça, toutes les herbes m'ont toujours très passionnée. J'adore faire des tartines, par exemple. Voilà, quelque chose de très très simple à faire, c'est les tartines où on met n'importe quelle herbe dessus, et alors là, ça devient de suite beau et bon, avec des fleurs, des herbes, tout ça. Et on peut facilement briller dans un repas avec des invités, avec très peu de choses. C'est incroyable.
C'est marrant ce que tu as dit. Quand je t'ai demandé comment tu en étais venu à faire cette pépinière gourmande, tu me disais en faisant tout ce que j'aime, en plantant tout ce que j'aime. Alors du coup, c'est marrant parce que le titre de l'émission, c'est Cuisiner avec amour.
Ah, c'est vrai.
Et c'est quoi la place de l'amour justement dans ton métier, du coup, dans la cuisine aussi, bien sûr, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, cette notion?
Ah, moi, c'est un travail passion à la base. Donc moi, je suis arrivée à la botanique par amour des plantes et de l'arbre, vraiment, où je trouve que c'est incroyable, le végétal. La résilience du végétal et le rapport qu'on a avec le végétal, je trouve ça incroyable, ça me fascine vraiment. Et après, j'ai commencé à aller plus vers les salades sauvages, et là j'ai découvert une infinité de choses, avec des passionnés des plantes, et puis des passionnés des goûts, parce qu'en fait la salade sauvage, c'est des plantes qu'on choisit avec du goût. C'est vraiment un héritage, c'est pas ce qu'on appelle tout le grand vase des plantes comestibles, mais c'est vraiment quelques caractères précis au niveau du goût sur certaines plantes choisies avec amour, justement. Et alors là, ça a été le mélange des saveurs, le mélange des textures, le mélange des goûts dans les mesclins qu'on peut faire avec les salades sauvages. Et après, à partir de là, je suis allée à la grande foire qui était avant à Saint-Jean-du-Gard et qui est maintenant à Quissaquet, la semaine prochaine d'ailleurs. Et là, j'ai découvert un panel de pépiniéristes qui vendaient des choses hallucinantes au niveau des saveurs. On pouvait goûter des choses, tout ça. Donc, par exemple, le poivrier du Sichuan, le poivrier du Timut, où ça a été une révélation. Et là, je me suis dit, ah non, il faut que je fasse tout. On ne peut pas tout faire. Mais alors, j'ai essayé de faire un grand maximum de choses. Et bon, mais là, j'arrête un petit peu. Je me lance plus dans le fruitier parce que il faut en vivre aussi. Et du coup, on ne peut pas avoir que des choses de collection parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais c'est passionnant, en fait. Après, c'est une infinité de choses, et du coup, c'est que de l'amour, effectivement, là-dessus.
Tu parles de passion et donc de révélation aussi, à un moment donné. C'est quoi qui t'a révélé cette passion, justement, pour les plantes? Ça, c'est quoi ton premier point de contact?
Moi, la passion pour les plantes, ça a été... ça fait longtemps. En fait, mon grand-père, il ramassait beaucoup d'herbes sauvages tout le temps. Et j'allais beaucoup me balader avec lui. Et du coup, j'ai toujours glané, petite, des fruits sauvages de partout avec mon cousin. On était un peu des enfants des bois, quoi. On allait ramasser tout ce qu'on trouvait. Et puis, je suis partie voyager, travailler en voyageant longtemps. Et puis, je voulais faire ça, vraiment. Je voulais connaître les plantes, je voulais toutes les connaître, ça m'émerveillait. Et c'était pas vraiment le goût au départ, c'était plutôt l'arbre, ça me fascinait. Et je voulais comprendre comment ça pousse, et puis je voulais toutes les connaître, je voulais connaître leurs noms, je voulais savoir lesquelles qui servent à qui, à quoi. Et je suis arrivée à faire, j'ai fait une école de plantes médicinales. Je fais des études là-dessus et ça m'a passionnée. Et là, je suis rentrée vraiment dedans. J'ai plongé à bras-le-corps dedans. Je parlais que botanique, je pensais que botanique. Je rêvais plantes tout le temps. Et après, je me suis remis vers les êtres humains après. Thank you.
Je me permets de revenir un peu sur tes origines familiales. En fait, c'est associé à une famille qui est assez connue, un nom qui est connu, le nom Bouglione. Ça a été simple pour toi de passer justement d'une famille qui avait cette réputation, ce nom connu, à justement ce que tu fais aujourd'hui avec les études que tu as suivies du coup?
Alors, moi, en fait, mon grand-père, c'est un Bouglione, mais après, comme dans toute famille, lui, c'est un peu écarté aussi après des gens du voyage. J'ai toujours eu mes cousins, mes oncles, mes tantes qui vivent en caravane. Mais il n'y a pas eu ce faste Bouglione qui nous a suivis, et surtout, on n'en parlait pas spécialement. Du coup, les gens, quand on arrivait dans un village, c'était surtout le fait d'être traité de gitan plutôt que d'avoir le faste Bouglione. Le faste Bouglione, j'appelle ça faste parce que c'est un nom qui est connu, effectivement, et on l'associe, c'est plutôt positif, une connotation positive. Alors que quand on voit des caravanes arriver, c'est pas du tout positif, et ça n'a pas de caractère.
Toi, tu as subi ça, du coup? Dans ton enfance, dans ta jeunesse, t'as subi cette image
Oui, parce que en fait, comme tous mes cousins venaient nous voir, en fait, nous on a emménagé dans un village avec une grosse partie de ma famille qui était sédentaire. On a emménagé dans le village, et puis il y avait vu que c'était avec mes grands-parents qui vivaient en maison, tout ça à ce moment-là, et on habitait tous ensemble. Et après, il y a tous les cousins qui venaient nous voir. Du coup, les gens ils nous parlaient pas forcément. Et donc ça a été mon enfance comme ça. Et après, une fois que les gens nous ont rencontrés, nous ont connus, ça a été complètement différent. Mon grand-père, il a été aimé dans ce village. Quand il est décédé, il y avait la moitié du village qui sont venus le voir parce que c'était un homme avec un gros charisme et puis qui a fait des très belles choses dans le village aussi. Donc ça, c'était. Mais et puis surtout, ouais, il avait un gros rapport à la nature. Il connaissait après, il chassait le hérisson aussi. Donc moi, c'est des choses que j'ai mangées quand j'étais petite. Et les gens, petit à petit, ils étaient plus curieux. Mais ça a été très long sur de nombreuses années. Et puis moi, c'était les années où on a 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et où ça marque un peu. Donc j'ai plus vu ça. Bon, le mot Bouglione, le côté cirque et le côté. Ils étaient plus dans le nord, donc et puis itinérant, tout ça, on allait les voir quand ils passaient, mais finalement, c'était pas ça c'était plutôt le côté genre du voyage qui était prédominant et un peu négatif.
Le fait que tu te mettes à faire des études, est-ce que ça a été incident justement, cette image que tu avais peut-être de toi aussi qui t'était renvoyée à un moment donné dans ton enfance? Tu as suivi facilement des études après ça ou
non?
Ça a été compliqué?
En fait, j'ai galéré, j'ai mis 3 ans, j'ai eu un bac avec 3 ans de retard, mais un bac cinéma et pas du tout sur les plantes. Et puis après, je suis partie en voyage pendant plusieurs années et je suis partie vivre au Danemark plusieurs années. Et après, c'est quand je suis revenue de tout ça que j'ai repris les études après la naissance de ma première fille, et du coup, j'avais 32 ans quand j'ai pris les études sur les plantes avec une école privée, mais j'ai pu travailler dans cette école pour me financer cette formation, et du coup c'était 4 ans où je me suis mis corps et âme dedans, et en fait ça m'a tellement passionnée que justement c'est là où ils m'ont proposé de m'embaucher pour pouvoir me payer l'école, parce que je pouvais pas suivre. La première année je l'ai payée, puis après les autres années je pouvais pas, c'est quand même des tarifs qui sont assez chers. Et en fait j'ai été hyper studieuse, ouais. Et là même si effectivement, au niveau scolarité, jamais été la meilleure, mais par contre, là, c'était le côté studieux. Et dans ma famille, c'est vrai que personne. Enfin, moi, j'étais peut-être la seule à avoir le bac. Peut-être pas la. Après, il y a eu peut-être ma sœur, mais voilà, c'était vraiment pas quelque chose. On fait pas d'études, quoi, spécialement.
Où est-ce que tu l'as puisé ton énergie, alors, à ce moment-là, pour être aussi studieuse?
Ah, ben, les plantes. Ah, c'est fascinant. Et puis d'apprendre, de voir que celle-là sert à ça. Et puis en fait, moi, ça m'a fasciné les noms latins. Et quand j'ai vu que je me rappelais très très bien, je me suis dit, c'est génial, j'ai trouvé un truc en fait, j'ai trouvé ma place. Et je me rappelais des noms latins, je me rappelais des familles, je me rappelais de tout ça. Et après, on m'a proposé de faire prof de botanique dans un BTS. Et j'étais au bon endroit au bon moment. Et en fait, celle-là, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Et puis après, de continuer à étudier pour pouvoir enseigner. Enfin, alors, c'était botanique de terrain, donc ça allait. Mais quand même, il fallait que je me forme sur le tas. Et finalement, ça a été incroyable parce que j'ai fini par travailler avec le CNRS sur les plans de Metallicole à Saint-Laurent-le-Minier. Donc ça a été un parcours assez incroyable. Moi, j'ai eu de la chance, en fait. Ça a été vraiment... J'ai un sacré parcours, ouais.
Oui, tu as un parcours qui est magnifique. Tu as parlé de la transmission. C'est vrai que tu parlais de ton grand-père qui, justement, t'avait donné ce goût un peu pour les plantes, pour les arbres, pour tout ce qui t'entourait dans la nature. Et maintenant, tu enseignes aussi sur les plantes. Donc, voilà, le rôle de la transmission, c'est quoi pour toi?
Ah ben c'est essentiel en fait, c'est-à-dire que c'est à un moment donné où on a l'impression d'avoir rassemblé quelques cases et où on peut commencer à se permettre de les donner, de les transmettre. Et là ça devient fascinant quand on arrive, il y a un dicton ou un proverbe ou un adage qui dit « ce qui se conçoit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». Ben voilà, à partir du moment où on l'a, ça veut dire qu'en fait quand c'est bien acquis, c'est à ce moment-là qu'on peut redonner cette information, et moi c'est ce que j'essaye de donner en tout cas. Like a tale about my baby. Lord, you know she comes around. Struck about feet four. Right from her head down to the ground. What's coming around here? Till about midnight. Je pense que tous les jours ça change. En ce moment, le ginkgo. Ginkgo biloba. Après, non, sinon je crois que je suis une émerveillée. Ouais.
Je reviens au repas, à la nourriture, cuisine avec amour. Qu'est-ce qui est important pour toi pour réussir un repas?
L'attention. D'être attentif, en fait, je me rends compte que moi, quand je rate les choses, c'est parce que je suis au four, au moulin, et que je fais plein de choses en même temps, et que justement, j'y mets pas cet amour, enfin, cette attention, du coup, cet amour, quelque part. Et du coup, ben, c'est ça, en fait, c'est l'attention, comme on pourrait mettre avec quelqu'un, comme on pourrait mettre avec les plantes ou les animaux, tout ça, effectivement, c'est l'attention qu'on y met. Et du coup, être présent.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire, c'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.